L de géant, L de géant, L de géant, L de géant. Bienvenue sur L de géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L de géant reçoit Jean-Philippe Thivet, producteur, éditeur et auteur, pour évoquer les albums de bande dessinée Philocomics, publiés par les éditions Rue de Sèvres. Le premier tome, paru en 2017, présentait 10 grands philosophes et leurs 10 approches du bonheur de l'Antiquité au XIXe siècle. Il y avait Platon, Épicure, Sénèque, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, Schopenhauer et Nietzsche. Le deuxième tome, paru en 2020, prolonger cette réflexion avec 10 autres philosophes. Aristote, Hobbes, Spinoza, Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Mill, Soro, Sartre et Arendt. Le troisième tome quitte le bonheur pour s'attaquer au travail. Alors moi j'avais appris en cours de philosophie en terminale que le mot travail venait du latin tripalium qui désigne un instrument de torture. Reste à savoir aujourd'hui si les deux sujets, bonheur et travail, s'opposent vraiment ou s'ils peuvent se rencontrer. C'est ce dont nous allons parler. Bonjour Jean-Philippe Thivet.
Bonjour.
Quand j'étais en Hippocagne, une des dissertations de philosophie qui m'avait marquée posait cette question. Peut-on rire de tout ? Alors j'y ai repensé en lisant Philocomics forcément, puisque le titre l'indique, ces albums entendent aborder des questions philosophiques avec humour. Et si je me réfère à mes cours de philosophie, non seulement nos enseignants étaient plutôt très sérieux, mais on n'y riait pas tant que ça. On abordait des sujets plutôt graves, ou en tout cas avec une certaine solennité. Pourquoi et comment avez-vous introduit cette notion d'humour, et même parfois de dérision, aux côtés de ces philosophes et de leurs enseignements a priori si sérieux ?
Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on utilise l'humour dans nos livres. On peut les citer un peu toutes. Hein. Déjà, le point de départ, c'est dire qu'il n'y a pas formellement d'impossibilité philosophique à utiliser l'humour. Pour tout de suite placer une référence un philosophe un peu connu qui est Bergson, dont on connaît tous l'ouvrage majeur sur le rire, on note déjà que lui, voilà, il pose cette possibilité, et même le fait que le rire est un des éléments caractéristiques de notre humanité, parce qu'on a la capacité en tant qu'humain de pouvoir rire de tout ce qui est humain. Donc si on peut rire de tout ce qui est humain, on peut rire également de la philosophie, c'est pas une impossibilité. Alors, chez lui, il y a notamment cette différenciation entre rire d'un paysage dans l'absolu, on n'en rit pas, on rit pas d'une montagne, on rit pas d'une forêt. Par contre, on va être capable de rire d'un nuage qui a une forme rigolote, d'un animal qui présente un nez qui nous rappelle celui de notre grand-mère. Donc on a la possibilité de rire de tout ce qui est humain, nous on a décidé de pas s'en priver. Ça me permet de passer un peu à des éléments peut-être plus techniques dans notre travail. Nous, notre idée, et on l'assume parfaitement, c'est une idée de vulgarisation, c'est-à-dire une idée d'exposer des concepts de la manière la plus pertinente, la plus juste possible, pour que ces concepts puissent contribuer à la formation des esprits. Vulgariser, c'est pas toujours évident, on n'est pas dans une logique de prêt-à-penser, on n'est pas dans une logique de purement utilitariste, de réduire pour apprendre plus vite. On est là pour former des lecteurs, j'ai envie de dire un peu. Et on a considéré, avec tous les camarades qui ont participé à l'aventure Philocomics, qu'utiliser l'humour, c'était une bonne manière pour prendre un petit peu de distance et contribuer à cette formation de lecteurs. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le premier, c'est vraiment la possibilité de le faire. La deuxième, c'est qu'on a trouvé que c'était vraiment effectivement un instrument, un moyen pertinent. Le troisième point, il est un peu plus technique. Faire de la vraie bande dessinée, ça veut dire essayer un maximum, tout en sachant qu'on est dans de la non-fiction, ce n'est pas dans des grands récits très amples d'histoires, d'aventures, de pirates ou quoi, mais on essaye de faire de la bande dessinée. Alors faire de la bande dessinée, ça veut quand même dire au départ, l'idée c'est de raconter une histoire sous la forme d'une séquence. Pour raconter une histoire, il faut des personnages. Pour avoir des bons personnages, il faut les caractériser avec efficacité, et donc raconter un petit peu leur qui ils sont, leur tempérament, leur trouver des signes distinctifs, ce que les anglo-saxons appellent faire des character sheets aussi bien visuels que sur le fond. Et les caractéristiques qu'on a trouvées souvent nous permettaient d'utiliser ce biais de l'humour et d'en faire des personnages un peu rigolos dont on s'empare et qu'on a envie, en tant qu'auteur, de faire évoluer pour raconter une histoire qui se passe bien. Et si j'avais une dernière raison, c'est un peu ce que j'appellerais la licence artistique. Voilà, nous, notre tempérament, pas forcément de la même façon chez tous les auteurs, mais c'est aussi une envie d'auteur que de pouvoir prendre un petit peu de distance en introduisant de l'humour, pouvoir parsemer ce qu'on a écrit avec des feintes et deux, trois éléments qui permettent aussi de donner plusieurs niveaux de lecture. Voilà, donc c'est un peu aussi pour jouer avec l'objet qu'on réalise.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec Philocomics, vous sortez la philosophie du monde de la pensée abstraite pour entrer dans celui de la représentation, notamment avec des illustrations ? Alors, ce ne sont pas toujours les mêmes illustrateurs, d'ailleurs, vous allez peut-être le rappeler. Il y a Annelise Combo pour les tomes 1 et 2, et puis M. Lamine pour le tome 3. Et si on prend la question du bonheur, par exemple, qui est tombé justement au programme du bac cette année, des filières générales et technologiques, est-ce que vous pourriez décrire une planche, une vignette ou un dessin qui vous paraît particulièrement éloquent ou illustrer ce que vous venez de dire ?
Effectivement, les derniers sujets au bac étaient pas mal en résonance avec notre travail. Et il y a une séquence qu'on a particulièrement bien aimé faire avec Jérôme Vermeer, donc qui est le vrai philosophe de la bande, et puis Annelise Combo, qui est plus que l'illustratrice, vraiment la co-autrice de nos deux premiers livres. Donc on a travaillé dans le premier volume sur des cartes, et on a essayé de postuler avec des cartes que le bonheur était affaire de réalisation de son potentiel. Alors dire ça comme ça, de manière un peu abstraite, c'est effectivement très en résonance avec le sujet qui essaie d'articuler bonheur et raison, si je ne me trompe pas. Évidemment, on est dans une dynamique très cartésienne, etc. Mais à chacun selon son potentiel, ben, c'est quand même très, très abstrait. Et donc, on s'est replongé dans le texte et on a essayé de trouver une manière rigolote de le mettre en scène avec Annelise et Jérôme. Et on a repris finalement une mise en scène, une métaphore que Descartes utilise, qui est celle de l'armateur. Donc à l'époque de Descartes, évidemment, on est dans une logique de lancement du commerce international. Il y a des gros bateaux, il y a des petits bateaux. Et on s'est amusé sur une planche complète qui peut presque être détachée de l'ensemble du livre à représenter finalement le volume de bonheur que pouvait espérer un armateur en fonction de la manière dont il remplit son bateau avec des tonneaux qui peuvent contenir des épices, du vin, ça, peu importe. Et donc voilà, donc c'était un petit challenge que de s'imaginer, essayer de représenter des niveaux potentiels de bonheur avec des échelles un peu comme des thermomètres en fonction de la manière dont les cales sont remplies. Et on arrive à la conclusion que finalement un armateur avec 3 tonneaux, mais dans un immense bateau qui pourrait en contenir 50, est plus malheureux qu'un tout petit armateur, qu'un tout petit bateau, qu'à 2 tonneaux qui remplissent parfaitement le volume offert par sa cale. Et donc le dessin nous permet de représenter des éléments, de recourir à plein de dynamiques, et puis de rendre hyper concret une pensée qui peut sembler parfois un peu abstraite.
Mais passer de l'abstraction à la représentation, c'est quasiment une dissertation de philosophie, ça.
Alors oui, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on travaille, en fait. On essaye, pour chacun des philosophes qui figurent dans le casting, de problématiser, c'est-à-dire d'essayer de trouver un angle d'attaque et de raconter, de trouver les moyens de proposer une dissertation visuelle. L'idée dans la dissertation, c'est de progresser. C'est de raconter une histoire qui part d'un contexte et puis qui arrive à une conclusion. Et ce qu'on fait dans un chapitre de bande dessinée, en tout cas nous, c'est raconter une histoire qui part d'une question et qui arrive à une proposition de conclusion, qui ne prétend pas conclure de manière aussi catégorique qu'on peut souhaiter conclure une dissertation, si tant est qu'on le fasse comme ça, mais qui en tout cas permet de quitter le chapitre avec un petit bout de patrimoine. C'est ça un peu notre objectif, un petit leg à la fin, il doit rester quelque chose.
Une petite trace. Mais scénariser vos dissertations, ça pourrait être un bon conseil, ça, pour les bacheliers. Alors pour ma part, moi je pense à la séquence sur Schopenhauer, dont vous présentez la pensée comme unique pour son temps, mais boudée par le succès. Vous écrivez que c'est un vieil ours cynique, odieux et parfois réactionnaire, qui appelle son caniche « mon bijou », qui est adepte de bouddhisme et qui pratique assidûment le yoga. Il délivre d'ailleurs son enseignement aux lecteurs de Philocomics en multipliant les postures, dont certaines semblent totalement infaisables, et précisément au moment où il assène que l'homme, je cite « imbécile, esclave de ses désirs », est condamné à être malheureux. Donc il fait ça avec un pied derrière la tête. Est-ce que ces contrastes, par exemple, sont avant tout des ressorts comiques ou est-ce que, justement, ils permettent un meilleur accès à sa pensée ?
Eh bien, les deux, je crois, parce que si on reprend l'exemple de Schopenhauer, c'est quand même... ce qu'il propose est quand même un défi. Si on devait le résumer, c'est super compliqué, c'est vraiment à la hache, mais si on devait le résumer, ce qu'il imagine, ce qu'il nous propose, c'est de dire que on va être heureux dans l'extinction absolue de toute forme de volonté. C'est la volonté qui nous entrave dans la recherche de bonheur. On n'est pas dans une dynamique absolument pure et parfaitement bouddhiste ou issue de philosophies asiatiques ou asiatisantes ou de leur version occidentalisée, mais on est un peu là-dedans. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de montrer, de trouver le ressort qui va nous permettre de mettre notre lecteur sur le chemin de la bonne compréhension avec le plus de pertinence et de justesse possible de ce qu'est la pensée de Schopenhauer. Pour la petite anecdote, c'est le chapitre qui peut paraître presque le plus outrancier, mais tout ce qu'on dit, ou presque, est vrai avec la licence artistique. Je dois avouer, comme ça en le disant, je ne sais pas si le chien de Schopenhauer était un caniche, j'en ai pas la moindre idée. Nous, on a trouvé rigolo que ça soit un caniche. Ce que l'on sait de manière formelle, c'est qu'il avait vraiment appelé son chien Atma l'âme du monde. On ne sait pas s'il l'appelait mon bijou, mais il l'avait vraiment appelé comme ça. Donc ça, c'est une réalité concrète. Et alors, sur base de tout ça, on s'amuse un peu. Moi, je ne sais pas s'il faisait une forme de yoga ou s'il avait une attitude méditative comme ça, mais quand on parle également, c'est un peu un ressort pour démarrer l'histoire et en faire un ours un peu irascible, on démarre de une espèce d'opposition avec Hegel. Je ne sais pas s'il s'appréciait ou pas, à la limite, je m'en fous, mais on sait que Schopenhauer faisait désespérément des cours devant un amphithéâtre vide, alors que tout le monde se ruait en face aux leçons d'Hegel. Ça, on le sait. On sait qu'il vivait également un peu en vieux garçon solitaire avec sa vieille bonne qu'on met en scène dans la maison et qui vit avec son chien. On utilise des éléments qui sont des éléments qui donnent des bouts de biographie, qui sont justes, et ensuite on transforme tout ça pour créer un personnage, je dis bien un personnage, qui nous permet de donner les clés pour avoir un accès à la pensée.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez un peu outré certaines situations ou caricaturé certaines situations pour des ressorts comiques, pour les rendre aussi plus sympathiques ? Je ne sais pas si Schopenhauer était très sympathique, et là, en tout cas, il est rigolo.
Oui, on est obligé, je crois, enfin en tout cas dans la manière dont nous on travaille, de créer des moments limite outranciers pour créer une espèce de connivence avec le lecteur. Il y a ça particulièrement chez Schopenhauer, il y a ça également pas mal chez Sénèque. En même temps, faire passer une morale stoïcienne, c'est pas évident, donc il faut voilà, trouver des manières de les faire passer. Il y a aussi des questions de tempérament d'auteur. Hein. Moi, ma manière de faire de l'humour à titre personnel et en tant qu'auteur est un peu comme ça. Le bon mot un peu piquant, un peu grinçant. Et donc, c'est aussi une manière à titre personnel d'utiliser la licence artistique pour faire passer un message.
Est-ce que vous vous êtes amusés en réalisant ces albums, tous les trois ?
Alors, on s'est beaucoup amusés. Et sinon, on ne l'aurait pas fait, parce que c'est... Je ne sais pas si ça a l'air de passer facilement. Je pense qu'il y a une forme de fluidité, je pense, dans notre travail. Mais c'est dur à faire. C'est super dur à faire. Parce qu'il faut se réinventer à chaque chapitre. Si on fait tous les chapitres sur le même modèle, avec un philosophe qui lève le doigt et qui prend l'air, une posture de professeur pour asséner une vérité, on est sûr de se planter. On est obligé de trouver à chaque fois un angle différent, un angle de caméra différent, une manière de raconter différente. C'est un gros travail, et si on s'amuse pas, c'est difficile à faire.
Nous disions que le bonheur était un sujet d'actualité brûlante, mais le travail en est un autre. C'était un très très gros sujet l'année qui vient de s'écouler, qui a été marqué notamment par la loi sur la réforme des retraites et l'allongement de la durée du temps de travail. En philosophie, le travail consiste à se définir en tant qu'être humain, écrivez-vous en introduction. C'est en travaillant que l'homme a pu se libérer de l'état de nature et dépasser les incertitudes d'une survie aléatoire. Comment avez-vous choisi d'aborder cette notion de travail ? Le découpage du scénario se fait de nouveau par philosophe, dans le troisième tome, avec des nouveaux noms comme Hegel et Marx. Et aussi, comment se construit-il ce scénario entre trois auteurs, illustrateurs, scénaristes ? Comment se répartissent les tâches et les forces ?
Parce que le travail occupe largement nos vies. Il occupe nos vies trivialement sur le temps qu'on passe au travail. Quand on a dormi, quand on a travaillé, il ne reste plus grand-chose. Et c'est même fascinant de voir à quel point notre vie entière est structurée autour du travail, parfois de manière exagérée, inadaptée, inadéquate par rapport à ce que pourrait être notre humanité. Tout ce que l'on fait est articulé avec la notion de travail à partir du moment où on rentre à l'école. L'école, elle est là pour éduquer, enseigner, et un mot, par exemple, qui revient très vite, très tôt, et qui prend le dessus souvent, c'est par exemple le mot formation. La notion de formation, elle est très orientée vers une dynamique d'adéquation au monde du travail. Et parfois, on est, dès le plus jeune âge, plus dans l'idée de, voilà, d'éduquer ou de former à la lecture, d'éduquer ou de former au monde, mais on est très vite dans l'idée d'éduquer, de former à un futur métier, de l'adéquation au marché du travail. Et puis ensuite, on avance et on se rend compte que toute notre vie de travailleur, elle est organisée autour de la notion de risque. C'est le risque de perdre son travail, le chômage, le risque de ne pas pouvoir aller au travail, la santé, le risque de vieillir, qui est considéré fondamentalement comme un risque, la retraite, le risque d'avoir un enfant, le congé maternité, le congé paternité. Et c'est une articulation qui structure l'ensemble de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort. Et moi, je trouve ça en fait un sujet fascinant. Une fois qu'on a posé ça, on travaille de manière très collégiale entre les auteurs, sur tous les bouquins. On se considère tous comme co-auteurs, il n'y a pas d'illustrateurs. C'est très difficile de voir qui met quoi à quel moment, qui dialogue, qui écrit, parce que ça dépend. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a systématiquement un leader sur la pensée qui amène une problématique et qui l'articule au thème. Il y a un responsable de ça. Et ensuite, chacun monte sur la problématique pour apporter qui une anecdote, qui un angle, et j'insiste vraiment sur la notion d'angle, qui une manière de raconter, un fil à tirer qui va permettre de raconter une histoire. Et celui qui apporte la problématique n'est pas forcément celui qui propose de raconter l'histoire. C'est un travail très artisanal, un petit peu à l'ancienne, avec des dynamiques d'atelier, beaucoup. On fait des dessins, on croque, on rature, on corrige, et de là jaillit un chapitre.
Vous dessinez tous ?
Non, fort heureusement. Le dessin est l'apanage de celui qui fait le dessin. Nous, on peut avoir des éléments de vision sur comment on va représenter telle scène. On va le cacher, on va pouvoir apporter des éléments de storyboard, mais on dessine pas. Jérôme et moi.
Alors normalement, quand on fait une dissertation de philosophie, on est un peu seul face à sa feuille, seul face à sa pensée ou face à ses lectures. Là, c'est un travail à plusieurs. On l'entend dans ce que vous décrivez comme manière de procéder. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, vous avez une forme de pensée collective, ou en tout cas, vous faites se rencontrer vos connaissances, vos imaginaires, et votre force de travail?
Alors, je crois qu'on a créé plusieurs auteurs qui sont un tout qui rassemble plusieurs personnes. Donc le tome 1 et le tome 2 avec Annelise, c'est un type d'auteur. Le tome 3 avec Mathieu Lamine, c'est un autre auteur. Je ne suis pas certain qu'on ait créé une manière de penser collective, parce qu'on est tous assez différents, ce qui, je crois, amène également une forme d'équilibre à l'ensemble. On n'a pas forcément la même vision du bonheur, on n'a pas forcément les mêmes histoires chacun. Et on a une forme de respect, en fait, de la vision de chacun qui permet justement de ne pas trancher. C'est-à-dire qu'on propose, et on l'a expliqué comme ça, des approches. Et ce sont des approches qui sont complémentaires, articulables, mais qui permettent pas d'arriver à une conclusion sur ce qu'est le bonheur. Et je crois qu'au final, si on interroge chacun des auteurs, on a chacun une vision différente. Et ça tombe bien, puisque notre objectif, ce n'est pas, encore une fois, d'avoir une recette de développement personnel prête à penser, mais encore une fois, d'essayer de former à la lecture, de former à l'envie de réfléchir.
C'est peut-être ça, l'intelligence collective. En tout cas, ce serait une bonne définition. Jean-Philippe Tivet, vous avez 2 heures.
Oui, c'est certainement ça. C'est-à-dire essayer de chacun apporter des bouts de réflexion autour d'un problème commun, de se garder de conclure de manière trop tranchée pour inviter ceux qui nous accompagnent à réfléchir par eux-mêmes.
Alors vous progressez par auteur, et dans l'ordre chronologique, 20e siècle, vous arrivez à Simone Veil, philosophe française, née en 1909 à Paris et morte en Angleterre en 1943. En tête de chapitre, le personnage de Simone résume « Trouvez dans le travail la possibilité de vous élever ». Avec Hannah Arendt, à la fin du tome 2, ce sont les deux seules femmes philosophes de l'aventure philo-comics, en tout cas pour l'instant. Comment cela se fait-il, Jean-Philippe Tivet ? Y a-t-il vraiment si peu de femmes philosophes dans la pensée occidentale ? Et pourquoi ne pas avoir élargi, par exemple, à d'autres formes de pensée ?
Là, vous posez les deux questions qui sont des questions récurrentes par rapport à notre travail, qui sont à la fois la question du genre et la question l'origine géographique ou la manière de penser qu'on intègre à nos livres. Alors nous, notre angle, il était clairement assumé au départ. Notre angle, c'était de faire un peu sous une forme un peu anthologique un parcours à travers la philosophie occidentale. Et il s'avère que la philosophie occidentale, c'est un parcours de pensée qui est, dans la mémoire collective, jalonné de pensée d'hommes blancs. Beaucoup d'Allemands, beaucoup de Français, beaucoup d'Anglo-Saxons. Et ça ne nous a pas semblé très grave dans notre approche qui était celle-ci. Donc on l'assume parfaitement, et on s'est même amusé à jouer avec en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'on a un peu analysé, on a passé nos trois livres à travers le test de Bechdel, que vous connaissez peut-être. Bechdel, c'est une autrice présente en bande dessinée, mais qui est aussi une personne importante dans la pensée féministe, qui essaye d'analyser le degré de compatibilité féministe d'une œuvre à travers la présence des femmes. Et alors nous, on est vraiment nulle part hein, quand on passe le test de Bechdel, parce qu'on a très peu de femmes, 2 sur 29. La présence des femmes, par ailleurs, dans nos livres, elle est vraiment typiquement dans ce que l'on exècre quand on passe le test de Bechdel, c'est-à-dire que les femmes qu'on propose sont souvent utilisées en rebond. Elles permettent de faire progresser la pensée tout en mettant en majesté la pensée de l'homme. Elles sont mères, elles sont servantes, elles sont maîtresses, elles sont un peu tout ça. Il n'y a que chez Simone Veil où on s'amuse à retourner un petit peu l'équation en faisant de Camus celui qui pose la pensée de Simone Veil en majesté, ce qu'il a réellement fait en considérant que c'était l'esprit le plus intéressant du XXe siècle, ce qui est une vraie hypothèse, et où on a donc Camus qui est quand même Camus quoi, qui porte la pensée de Simone Veil à travers tout notre chapitre, un peu comme une pirouette que l'on fait. On l'a assumé, et d'ailleurs ça a été perçu comme ça un peu partout dans le monde, notre travail, puisque par exemple les Chinois ont traduit notre premier tome, ils vont faire le deuxième et le troisième, ils appellent ça carrément anthologie de la pensée philosophique occidentale. Ce qui nous perturbait, c'était d'en rester là. Et donc ce qu'on a décidé avec Jérôme, et puis en travaillant avec d'autres personnes, Anidou et Marie Dubois, c'est de faire ce travail de recherche approfondie, non pas pour comprendre pourquoi les femmes ont été largement écartées de l'histoire collective, de l'histoire de la philosophie, mais plutôt pour faire le travail qui nous semble plus intéressant, d'exhumer des pensées. Ben ça, c'est l'objet de notre dernier bouquin, qui est vraiment un travail autour de deux axes, identifier de manière un petit peu originale quand même, des destins et des pensées de femmes qui n'ont pas laissé une trace dans l'histoire de la philosophie et se dire « c'est dommage parce que c'était vachement intéressant », d'une part, et d'autre part, identifier des pensées portées par des femmes qui ont laissé une trace dans d'autres champs, mais pas dans celui de la philosophie, alors que philosophiquement, c'était au moins aussi valable que les pensées d'hommes qui ont laissé des traces dans l'histoire de la philosophie. Sur le premier champ, qui est celui des oubliés, on peut citer par exemple Cléobuline, on peut citer Seishon Agon au Japon, on peut citer Gabriel Suchon qui commence à émerger de ci, de là, ou dans celui plus récent de femmes qui n'ont pas laissé la trace qu'elles auraient pu laisser dans l'histoire de la philosophie, par exemple quelqu'un comme Louise Michel, qui a étudié souvent d'ailleurs un peu, on dirait un peu outrancière, comme une espèce de passionnariat, limite hystérique, non pas du tout, elle est adossée à... Enfin, je me moque de son caractère, mais elle adosse son action à une pensée qui est ferme, qui est très structurante, autour de la liberté. On essaye, non pas de réparer, mais de faire notre travail, qui est celui de donner à réfléchir en exposant des concepts et des destins.
Il y a quand même quelque chose qui relève, en tout cas de la recherche, mais peut-être même de la restauration, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'en philosophie, comme dans d'autres arts, que ce soit dans le cinéma, par exemple, ou dans la musique, dès lors qu'on a une attitude un peu anthologique, on trouve peu de femmes, et on s'aperçoit qu'en fait, si on en cherche, on en trouve. C'est juste que l'histoire les a masquées ou oubliées, comme vous disiez.
Et c'est exactement ça, la dynamique d'anthologie. Quand on se positionne du côté de l'auteur, il y a quand même cette idée de synthétiser quelque chose qui est déjà là, en filigrane, donc avec des noms qui parlent à chacun. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on s'est positionné sur les trois premiers philo-comics. Effectivement, vous avez employé un mot qui est fondamental, qui est celui de recherche. On n'est pas du tout dans la même dynamique, par exemple, dans Libre de penser, où là, on a cherché, c'était un gros travail. C'est d'ailleurs pour ça que l'équipe a un petit peu été modifiée, qu'on a eu l'apport d'une historienne majeure, qui est Anidou. Parce qu'on a eu là le besoin soit de se confronter à des textes de personnes connues mais avec un angle un petit peu original, ou soit carrément de faire une recherche très précise sur des figures pour lesquelles il ne reste que peu de choses. Quand on travaille sur Cléobuline, il y a un gros travail à faire sur très peu de sources et un travail d'angle à donner. On considère qu'effectivement il y a une forme de vraie originalité et singulier dans notre travail parce qu'on amène des choses qui sont que rarement formalisées ou qui ne sont même pas formalisées avec nos textes. Quand on travaille par exemple, quand on évoque le concept de viridité chez Hildegard de Bingen, il y a une vraie forme de singularité et d'originalité. Donc c'est autre chose, un travail de recherche par rapport à un travail d'ontologie.
Donc ce livre, le titre vous l'avez glissé, c'est Libre de penser. Cléobuline, vous pouvez en dire un petit mot pour la présenter ?
Alors Cléobuline, c'est un personnage qui n'est cité qu'à travers des citations d'autres philosophes. Est-ce que c'est une manière de l'avoir invisibilisé ? Est-ce que c'est pas de bol ? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais on a en tout cas suffisamment pour donner à voir l'originalité d'une pensée déjà d'une femme entourée d'hommes prestigieux, puisqu'elle évolue dans le cercle, par exemple, d'un mathématicien philosophe comme Thalès, qui a impressionné ces hommes. On en parle également, Aristote, on touche un mot un peu plus tard, qui est super intéressante parce qu'elle explore un champ qui n'est pas souvent retenu ou exploré dans le champ de la philosophie, qui est celui de l'énigme. Ce qu'elle essaye d'articuler, c'est l'idée de la sagesse, l'idée de l'énigme, en posant le fait que le cerveau est tellement fort qu'on peut l'entraîner, qu'on peut l'amuser et qu'on peut l'enrichir en lui suggérant des énigmes sous plein de formes possibles qui vont lui permettre d'aller plus loin dans la compréhension du monde. C'est un peu le poil à gratter de l'époque qui va essayer de pousser un peu son environnement dans les retranchements en posant les questions incongrues, originales, qui vont permettre de faire augmenter la connaissance, de faire croître la connaissance en trouvant des angles singuliers.
Est-ce que pour Libre de penser, vous avez procédé de la même manière que pour Philocomics, en utilisant notamment l'humour, peut-être la caricature ?
Un tout petit peu moins. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était plus dans la retenue. Il y a toujours des questions aussi techniques, narratives. L'idée, c'est de raconter une histoire, et force est de constater que sur les destins de femmes dont on s'est emparé, on avait moins de cartouches, moins d'éléments pour les caractériser, moins d'anecdotes. Donc on a plutôt utilisé des ressorts chronologiques. Au lieu de s'intéresser à un moment particulier et de pouvoir jouer avec un aspect particulier, on s'est plutôt intéressé à articuler un destin, une vie, ce qu'elle raconte avec une pensée. On a ressenti le besoin de plus raconter leur vie, aussi parce que, chez beaucoup d'entre elles, il y a quelque chose de romanesque qui dit beaucoup aussi sur leur pensée. Je pense à Gabrielle Suchon, qui travaille sur l'accès à la science, qui en fait chez elle a un accès plus large à la connaissance pour les femmes, problématique qui s'articule avec un destin de femme à l'époque où elle évolue. Donc en gros, un choix entre le mariage ou les ordres. Et elle, c'est un truc complètement romanesque, elle dit mais non, moi je vais proposer une troisième voie qui est celle du célibat volontaire. Pour ce faire, il va bien falloir que je quitte les ordres. Et donc elle fait le mur, elle monte sur un cheval, elle va à Rome, elle voit le pape, elle lui explique et dit libère-moi de mes vœux, je choisis cette troisième voie. On raconte l'histoire peut-être de manière moins rigolote, mais avec ce souffle romanesque qui nous permet quand même d'articuler une pensée qui est super originale, qui est très intéressante, le célibat volontaire au service de la science, de la connaissance, de l'éducation, avec voilà, une manière de raconter un petit peu différente, mais enlevée.
Vous citez Soro dans le tome 2 de Philocomics. Un philosophe dont l'École des Lettres a un peu parlé dans son numéro 4 qui est paru cet été, dans le cadre d'un dossier sur l'esprit cabane. Est-ce que vous pourriez envisager un tome 4 de Philocomics consacré cette fois aux questions des relations avec la nature, le sauvage ou l'écologie par exemple ?
Alors la nature et l'écologie étaient très présentes dans notre réflexion au moment où on a décidé de travailler sur le travail. C'était les deux derniers thèmes en fait, c'était les finalistes. On travaille énormément avant de lancer un tome sur la faisabilité. Est-ce qu'on va avoir assez de choses à dire et surtout est-ce qu'on va être capable de raconter de manière intéressante ? Donc l'écologie était finaliste. On s'est rabattu sur le travail parce qu'on se sentait plus à l'aise avec cette matière à l'instant T. On a introduit une dose d'écologie, en tout cas de rapport à la nature, pas d'écologie mais de rapport à la nature dans le tome 3, encore une fois avec Descartes, en rebondissant sur un des contresens plus connus de la philosophie, où Descartes explique que l'homme doit être comme maître et possesseur de la nature, qui est un contresens qui a été fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça par certains représentants politiques français. Et donc on s'est amusé à jouer avec cette formule pour montrer à quel point le philosophe peut se positionner comme quelqu'un qui connaît et comprend la nature pour essayer de faire en sorte que l'homme se réalise en tant qu'homme, tout en étant suffisamment articulé avec intelligence avec la nature pour ne pas la détruire et la négliger. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on va mieux la comprendre pour mieux être capable de vivre avec et accomplir notre humanité. C'est peut-être le début de quelque chose pour un tome 4 à suivre.
Comment est-ce que vous travaillez avec le monde enseignant dans le cadre de Philocomics en amont pour préparer les albums? À quel point sont-ils en lien avec les programmes, par exemple, les programmes scolaires, hein, là je parle. Et aussi, pour quelle classe ou quelle classe d'âge les pensez-vous?
On a essayé de se préserver au moment de la création, d'essayer de se préserver du monde enseignant. Pourquoi? Parce qu'on est tous entourés, Jérôme ou moi, ou Anne dans le cadre de Libre de Penser, on est baigné dans des milieux enseignants, et à chaque fois qu'on a commencé à aborder notre travail, on ne s'est pas fait gronder, il y a une forme de curiosité circonspecte, mais vraiment, réellement circonspecte, une méfiance. Et puis on a toujours eu une conclusion catégorique, en disant « Tu ne peux pas faire ça sans parler d'eux !» Alors j'ai dit « Tu ne peux pas faire ça sans parler de Bergson !» J'ai genre « Mais c'est l'évidence, tu ne peux pas faire ça sans parler de Kierkegaard !» Et en fait, si, on peut faire tout à fait ce qu'on veut, parce que ça s'appelle la licence artistique et ça s'appelle un projet. Et en plus, mettre tout le monde d'accord sur qui, quand, comment, sur quel thème, c'est impossible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé 2-3 mécaniques, les niveaux de langage, on a testé les niveaux d'humour, trop, pas assez, avec des enseignants convaincus, ce qui nous a permis de donner une forme de calibrage, j'aime pas trop le mot calibrage, mais c'est quand même un peu ça l'idée, hein, c'est-à-dire d'essayer de trouver un niveau de langue, un niveau de subtilité. Et puis une fois qu'on l'a fait, on n'a plus jamais fait lire à personne, parce que c'est trop effrayant. On a rendu à notre éditeur, qui les a commercialisés, avec une forme de sincérité, en se disant, voilà, ça va peut-être trouver ça faire son chemin tout seul et trouver son public. On a quand même pris soin de créer des niveaux de lecture permettant aux enseignants de s'en emparer. Donc ils n'ont pas été écrits pour répondre à des programmes, mais ils ont été écrits pour être compatibles avec l'enseignement de la philosophie. Et en termes de catégorie d'âge, ils ont été clairement écrits, en tout cas pour les philocomics, pour être lisibles à partir de 14-15 ans, Libre de Penser à partir de 11 ou 12 ans. Ils n'ont pas été écrits pour être exploités stricto sensu de manière immédiate, mais pour être compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enseignant pourra extraire une case, extraire une séquence, extraire une vignette, ou extraire un chapitre, et l'exploiter en classe. On a d'ailleurs fait des fiches pédagogiques qui permettent d'utiliser tout ça. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que même dans des toutes petites classes, pour faire des ateliers, même en primaire, on va jamais faire lire Philocomics à un enfant de primaire, par contre on peut le faire réagir à une blague, à une attitude, à un mot, et pour enclencher un travail d'atelier, etc. Donc je crois qu'on est plutôt comme un outil de déclenchement d'une réflexion à travers une séquence, plutôt que comme stricto sensu un objet d'étude.
En tout cas, pour le commun des mortels, dont les cours de philosophie sont un petit peu lointains, c'est un très très bon outil de révision, notamment, et de discussion, j'imagine. Merci beaucoup Jean-Philippe Tivet, on attend le tome Écologie avec impatience.
Merci de m'avoir reçu.
À très bientôt sur Eldo Géant, peut-être.
Eldo Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle, publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chan. À bientôt pour un prochain épisode sur Eldo Géant.